qui ne fait pas partie de ceux que l'on aborde avec facilité, parce qu'il fait partie de toute cette série de prophètes qu'on appelle les petits prophètes, mais qui ont tant de grandes choses, un grand message à partager avec vous. Eh bien, dans ce livre de Joël, je rappelle, en le complétant, le thème que nous abordons ce soir, « Revenez à moi de tout votre cœur », Joël 2, 12, 13. Et j'aime la manière dont commence le premier de ces deux versets. « Maintenant encore », c'est pour ce soir. « Maintenant encore », déclaration de l'Éternel. C'est écrit de diverses manières, d'une version à l'autre, oracle de l'Éternel. Mais c'est tout simplement parce que ce n'est pas une déclaration banale. Rien n'est banal dans les Écritures. Mais il y a des domaines qui sont particulièrement chers aux yeux de Dieu. Et ce que nous vivons ce soir fait partie de ces domaines. Alors c'est une déclaration. C'est une déclaration solennelle, c'est une déclaration souveraine de l'Éternel. Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il fait grâce. Il est compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Et quand les Écritures parlent de la bonté de Dieu, il y a plusieurs termes qui sont utilisés. Mais ici, c'est un terme qui est un des joyaux de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, mais qui est valable pour notre Alliance. Un des termes les plus merveilleux de l'Ancien Testament. Parce qu'il évoque toutes sortes de dimensions de ce qu'est l'amour véritable de Dieu tel qu'il nous est présenté dans les Écritures. Mais il est encore plus beau que ce qu'il nous est présenté, parce que nous serions incapables de supporter d'en savoir plus. C'est bien ce que Moïse aurait aimé. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ton poids, fais-moi voir ta pesanteur, fais-moi voir ta grandeur, fais-moi voir ton amour. Dieu l'a caché derrière ses mains, derrière un rocher. Parce que la grâce de Dieu est tellement immense qu'elle nous est insupportable. Nous ne pourrions pas vivre si nous étions confrontés aujourd'hui à l'amour de Dieu. Il est compatissant, lent à la colère, riche en bonté, en amour constant, en grâce, en fidélité persistante, etc. Et il regrette le malheur qu'il envoie. Essayez de retenir, demandez à Dieu de vous garder dans la mémoire ce dernier petit bout de phrase. Il regrette le malheur qu'il envoie. Ça veut dire que Dieu aurait tellement aimé pouvoir faire autrement. Parce que Dieu n'est pas sadique. Parce que Dieu n'est pas arbitraire. Alors il souffre. Dieu souffre quand il doit faire ce que nous allons voir dans un premier temps. Nous nous rendons sans tarder dans une des plus petites bourgades de la tribu de Juda, la cité de Bethléem, 9 km au sud de Jérusalem,
Nous allons frapper à la porte d'entrée de l'humble demeure d'une modeste famille fixée dans ses murs. Nous sommes probablement à la fin du XIIe siècle avant Jésus-Christ, une soixantaine d'années avant la naissance du grand roi David. Et c'est dans le livre de Ruth, au chapitre 1er, que nous découvrons le début de ce qui va tellement nous concerner ce soir, maintenant. Ruth, chapitre 1er, verset 1er. À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour séjourner dans la campagne de Moab. Arrêtons-nous là. Et nous devons nous arrêter là parce que, simplement dans ce premier verset, nous avons un trio de mauvaises nouvelles. On ne se l'apparaît pas. On peut passer comme chat sur braise sur ce premier verset, il semble normal. Et en réalité, il commence très mal. Avec, je l'ai dit, un trio de mauvaises nouvelles, au point qu'un commentateur a simplement écrit ces lignes, se distinguant de beaucoup de commentateurs qui ont été très très positifs. Mais lui, il a dit, c'est une tragédie qui finit bien. C'est une tragédie qui finit bien. Quelle est la première des trois mauvaises nouvelles? Eh bien, le texte commence par cette petite locution à l'époque des juges. Et Dieu est bon puisque il a fait en sorte que nous ayons un éclairage très particulier sur l'époque des juges. Et dans nos Bibles, il suffit de partir une page en arrière pour être à la fin du livre des juges et d'avoir la solution à notre problème, à notre question. Au tout dernier verset du livre des juges, juges 21-25, il est écrit « En ce temps-là, à cette époque, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Littéralement, ce qui était droit à ses yeux. La version du rabbinat français écrira « Chacun agissait à sa guise. » Sombre période, tumultueuse, pleine de violentes turbulences et de vertigineuses montagnes russes, longue de plus de 3 siècles, parce que je suis le partisan de la chronologie longue, je le dis pour ceux qui comprennent ce genre de langage. Plus de 3 siècles. Et ces 3 siècles s'inscrivent entre 2 événements, la mort de Josué, dont la Bible porte le nom pour un de ses livres, juste avant le livre des juges, Josué, et de l'autre côté, le début de la royauté en Israël avec le premier roi, Saül. Et tout cela nous est décrit, non pas en totalité, nous n'aurions pas assez d'une bibliothèque, mais tout ça est résumé en quelque sorte par un choix que Dieu a voulu sceller sous nos yeux dans les 21 chapitres de ce livre des juges. C'est une galerie de clairs-obscurs. Oh, pas des clairs-obscurs à la Rembrandt, parce qu'ils sont trop doux ceux-là. Ce sont des clairs-obscurs à la Caravage. Caravage, peintre italien, il était tout près de l'époque de Rembrandt, qui a fait des clairs-obscurs extrêmement violents, avec des contrastes saisissants entre la lumière et ce qui était dans l'obscurité. Pourquoi dis-je cela? Tout simplement parce que nous avons une succession de portraits haut en couleur de libérateurs. On pourrait les appeler des sauveurs. Il s'agissait de chefs juges qui étaient suscités par Dieu en réponse aux vibrants appels au secours d'un peuple désespéré, enlisé jusqu'au cou dans la fange nauséabonde d'une criante infidélité, multiforme, un peuple cycliquement opprimé, ravagé, asservi par de nombreux envahisseurs étrangers. Alors pourquoi une situation aussi dramatique? Eh bien, tout simplement à cause du véritable contenu de ces trois mots, point de roi. C'est une indication historique. Ça permet de situer le fait que la rédaction du livre est intervenue alors qu'il y avait un roi. Et on pourrait s'arrêter là, n'est-ce pas? Mais avec Dieu, il est rare qu'on s'arrête là. Il faut se laisser interroger par les Écritures quand nous les lisons. Et ce point de roi, ce n'était pas simplement le fait qu'il n'y avait pas encore de roi en terre d'Israël, mais c'est aussi et essentiellement le fait que Dieu n'était plus le roi d'Israël. Et ça, c'est autre chose. Dieu n'était plus le roi d'Israël. Le prophète Ésaïe, qui a vécu quelques centaines d'années plus tard, et qui a aussi parlé des choses qui nous concernent ce soir, va dire dans le chapitre 63, verset 19, « Nous sommes depuis longtemps comme ceux que tu ne gouvernes pas. » C'est-à-dire qu'à l'époque du prophète Ésaïe, dans les années 740 à 680 avant Jésus-Christ, il y avait le même problème. Dieu avait été éjecté de son trône. On voulait bien de la religion, mais plus du véritable Dieu tel qu'il nous est présenté dans l'ensemble des Écritures. La seigneurie de l'Éternel sur son peuple n'était plus reconnue, ni acceptée par ses enfants. Plus de relations, plus de dialogue, plus de partage, plus d'amour, plus de loyauté, plus d'obéissance. Si vous voulez en savoir plus dans les jours qui viennent, prenez simplement le livre des juges et vous ouvrez au chapitre 2. Et le chapitre 2 détaille ce que nous venons de dire de manière extrêmement claire. Voilà un peuple qui ne voulait plus connaître Dieu. Et connaître, c'était l'équivalent d'aimer. Connaître. Pour connaître, il faut aimer. Pour aimer, il faut connaître. C'était un temps de déclin, de corruption religieuse et morale, chacun agissant comme il lui plaisait. Je ne veux pas ce soir, je l'ai fait dans mes notes, mais je ne veux pas ce soir vous donner de détails tels que ceux qui figurent dans les derniers chapitres des livres des juges, chapitres 17 à 21. Les chapitres 17 à 21 contiennent deux récits. Ce sont ce qu'on appelle des appendices, qui ne sont pas à situer forcément dans la chronologie des événements. Mais ils sont là à la fin pour montrer à quel niveau était arrivé le peuple d'Israël dans sa corruption. Si vous lisez ces chapitres, vous aurez peut-être envie de prendre une douche pour vous nettoyer après. C'est écœurant. C'est criant. De corruption, de méchanceté, d'infidélité, d'impureté. Tout y est dans ces chapitres. Alors il y a une deuxième mauvaise nouvelle. La nouvelle qui est très claire, n'est-ce pas, c'est qu'il y avait une famine. Il y avait une famine dans le pays. Alors, il faut le dire d'emblée, la mention immédiate de la famine ne saurait donc être le simple fait du hasard. Elle s'inscrit clairement dans les conséquences inévitables de l'abandon de l'Éternel par le peuple d'Israël. J'en veux pour preuve aussi un de ses prophètes, le prophète Osée. Alors lui va intervenir dans la deuxième moitié du 8e siècle, vous voyez, c'est aussi plus tard, et dans des circonstances qui étaient extrêmement problématiques. Et dans Osée 8:7, il est dit, c'est Dieu qui parle, « Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas une tige de blé. » Vous voyez qu'il est question de famine. Ils n'auront pas une tige de blé, ce qui poussera ne donnera pas de farine, et s'il y en avait, des étrangers l'engloutiraient. Il existe une traduction grecque de l'Ancien Testament, qui a été terminée à peu près en 250 avant Jésus-Christ, tout simplement parce qu'à Alexandrie, en Égypte, il y avait énormément de juifs qui parlaient le grec. Alors Dieu a dirigé les choses pour que nous ayons une traduction qu'on appelle la Septante. Eh bien, dans la Septante, en grec, nous trouvons ceci, rassurez-vous, je vous le dis en français, « Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la catastrophe. » Ça, c'est du grec. Vous connaissez l'équivalent français ? La catastrophe. Vous voyez, c'est clair, hein ? Ils ont semé le vent du livre des juges, et tous les vents qui ont suivi, nauséabonds. Maintenant, ils auront la catastrophe. Cela veut dire que cette plaie qu'est la famine constitue une preuve indéniable de la parfaite fidélité de Dieu à sa parole vivante, notamment à ses avertissements solennels, à ses menaces redoutables de malédiction contre son peuple s'il devenait volage, rebelle, idolâtre. Et ceci est écrit dans des termes tellement précis dans le livre du Lévitique que nous n'aimons pas lire, mais qui pourtant a pas mal d'importance quand on veut avancer avec Jésus-Christ, au chapitre 26. Et ça a été écrit à la génération qui était vivante quand elle a commencé à tourner dans le désert. Et puis, le même texte, en quelque sorte, a été repris avec le même contenu de base dans le livre du Deutéronome, au chapitre 28. Et ça, c'était le message pour la nouvelle génération, de manière à ce que la nouvelle génération soit aussi informée et avertie que la génération qui était morte dans le désert. Disons-le, la famine est présente dans de nombreux passages de l'Ancien Testament. Je pense à Abraham, qui a eu des problèmes à cause de la famine. Quand il est parti en Égypte et qu'il a commencé à penser qu'on pouvait mentir sans aucun problème, n'est-ce pas ? Demi-vérité égale mensonge. Et puis il y a Élie au bord du torrent de Kérit. J'ai écrit un livre sur ce sujet aussi. C'était à l'époque de la famine. Et puis après, alors, Osée, Joël, Amos, Ézéchiel, Agée et le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie lui-même aux prises avec la famine pendant son incarcération à Jérusalem, assiégée par l'armée Babylone en 588-587 avant Jésus-Christ. Lui, il mentionne la famine au moins 25 fois dans son livre. Et il s'évertue à répéter, tenez-vous bien, 18 fois, entre les chapitres 14 et 44, que le triple fléau de Dieu, épée, famine, peste, c'est-à-dire épidémie, maladie, vous savez que tout ça va ensemble. Tout cela se tient, quand il y a l'un, il y a l'autre. On le voit aujourd'hui dans le monde. Eh bien, tout ça ne va plus tarder à s'abattre sur ce peuple rebelle, arrogant, courageux, qui refuse obstinément de revenir à l'Éternel, et qui va même jusqu'à le renier, et là je cite Jérémie 5, 12, en disant « Il n'existe pas, Dieu n'existe pas, le malheur ne viendra pas sur nous, nous ne verrons ni l'épée, ni la famine. » À l'époque du communisme en URSS, à cette époque, un commissaire rend visite à un fermier pour l'interroger sur sa récolte de pommes de terre. Le fermier, un peu tremblant, dit « Oh, commissaire, elle était abondante. »« Ah, excellent, excellent. À combien l'évaluez-vous ?»« Oh, elle était si abondante qu'elle atteignait les pieds mêmes de Dieu. » Le commissaire fronce les sourcils. « Mais camarades, notre État est communiste, nous sommes des athées, vous ne devez pas oublier que Dieu n'existe pas. C'est cela, commissaire, c'est tout à fait ce que je veux dire. Pas de Dieu, pas de pomme de terre. » Prenons la suite du texte. Toujours dans le chapitre 1er, versets 1 et 2, un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour séjourner dans la campagne de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, le nom de sa femme Naomi, le nom de ses deux fils Maclon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Ils arrivèrent dans la campagne de Moab et ils y vécurent. Hélas, c'est la troisième mauvaise nouvelle. Oh, deux mots sur Bethléem de Juda. De Juda, nous y reviendrons pour le distinguer de Bethléem de Zabulon, qui était tout à fait au nord du territoire d'Israël. Josué 19, 15. Bethléem était alors un village perché à près de 800 mètres d'altitude au sommet d'une chaîne de montagnes qui traverse le pays du nord au sud. Les terres y étaient fertiles et elles faisaient de Bethléem, et c'est là d'ailleurs la signification de son nom, la maison du pain. C'était un centre pastoral et agricole. Mais le désert de Juda commençait aux portes de la cité. Cela, nous l'avons revérifié lors d'un séjour. Nous avons vécu un repas de sabbat chez des amis presque aux portes de Bethléem, et quand nous regardions par la fenêtre, le désert commençait. Par temps clair, la vue embrassait la mer morte, la dépression du Jourdain, la chaîne des monts de Moab, au-delà du Jourdain, dans la Jordanie actuelle. Cette chaîne était arrosée par les pluies venant de l'ouest, d'où la grande fertilité proverbiale, et elle était... et l'excellente réputation des blés du haut plateau de Moab, qui était situé à quelques 80 km de Bethléem. Et là, dans ce petit village, à l'époque, vivait une humble famille, Monsieur Élimélec, mon Dieu et roi. C'est là ce que signifie Élimélec. Naomi ou Noémie, suivant qu'on prend l'hébreu ou le grec, nous allons nous arrêter à Naomi parce que c'est plus facile. Il y a beaucoup plus de Naomi que de Noémie chez nous. Et Naomi, voilà un mari heureux. Ma charmante, ma gracieuse, ma tendresse, ma douceur, ma beauté, c'est tout ça. C'est ce que signifie le nom. Vous ne trouvez pas que c'est formidable? Précisons que Naomi est le seul personnage présent du tout début jusqu'à la fin du livre de Ruth. C'est le seul. Des premiers versets au dernier verset. C'est le seul. Deux enfants. Et là, nous sommes dans la peine. L'aîné Maclon, dit à la française, maladif. langueur, faiblesse. Kilian, languissant, dépérissant. Par exemple, lors d'une maladie grave et prolongée, ce qu'on appelle la consomption. Et ils mourront jeunes, tous les deux, mariés, laissant descendance. Y a-t-il un lien à établir entre leur nom et les circonstances simplement de leur naissance, leur état de santé au moment où ils sont nés? Beaucoup de questions qui restent en suspens, mais toujours est-il qu'ils vont mourir jeunes et sans descendance. Troisième mauvaise nouvelle, parce que c'est un mauvais choix stratégique, que le départ vers Moab. Oh, à première vue, et j'ai eu des personnes qui ont contesté, mais c'est tellement clair dans le texte, en disant, mais où voyez-vous le problème? Et on a tendance à applaudir, à dire, voilà, Élimélec était un homme raisonnable, il avait le souci de leur situation, de l'état des enfants, etc., n'est-ce pas? Le choix pouvait être à première vue de bon sens, réfléchi, argumenté, raisonnable, surtout provisoire, en attendant des jours meilleurs pour le village de Bethléem. Mais nous sommes obligés de démolir cette approche qui semble donner raison à Élimélec et à son épouse. C'est Moab. Moab et son histoire. Moab qui signifie « venant du père ». Parce qu'il y a un rapport avec la naissance de l'ancêtre du peuple des Moabites, puisque ce peuple est issu d'une union incestueuse entre le neveu d'Abraham, Lot, ivre, et sa fille aînée. Juste à la fin du cataclysme épouvantable de Sodome et Gomorrhe. Et dès la sortie d'Égypte, Moab s'est ouvertement montré hostile au peuple d'Israël. 40 ans plus tard, avant la conquête de la terre promise, Dieu a sanctionné cette franche hostilité persistante en déclarant que les Moabites ne seraient jamais admis dans l'assemblée de l'Éternel, pas même leurs descendants de la 10e génération, Deutéronome 23, 4 à 7. Et mes amis, depuis cette époque-là, Moab avait une mauvaise réputation en Israël. C'était un peuple plongé dans la corruption, livré aux idoles, sacrifiant ses enfants brûlés vifs en l'honneur de Kemosh, la divinité principale. Horrible, horrible. Et puis, pendant le temps des juges, un roi de Moab a asservi Israël pendant 18 ans. 18 ans d'un joug dur de la part d'un roi de Moab. C'était un peuple extrêmement fier, qui s'attaquait à l'Éternel, orgueilleux à l'extrême, esprit de supériorité, arrogant, vaniteux. C'est le prophète Jérémie qui nous dit tout cela dans son chapitre 48. Et voyez-vous, c'est ce qui donne à toute la suite du récit, à partir de la fin du chapitre 1er jusqu'à chapitre 4, une note absolument extraordinaire de l'immensité de la grâce de Dieu. Ruth, c'est par excellence dans les Écritures l'enfant de la grâce. Moabite! Moabite, qui, elle, a pu entrer dans l'Assemblée de l'Éternel. Et il y avait là toute l'annonce d'un évangile qui, un jour, serait adressé directement aux nations, à tous ceux qui n'appartiennent pas au peuple juif. Ils seraient inclus dans ce programme prévu dans l'éternité passée de salut par Dieu. Alors cela veut dire que Élimélec entre en conflit avec son beau nom. En réalité, l'Éternel n'est pas son roi. Sa pratique ne colle pas avec son étiquette. Il conteste concrètement la seigneurie, la royauté d'Éternel sur sa vie. La solution moabite prouve qu'il épouse lui-même aussi la mentalité dominante de son temps. Lors de sa préparation à la royauté, David dut prendre la fuite pour échapper à l'hostilité du roi Saül, qui n'était pas encore roi. Et il finit par se réfugier avec ses parents dans le pays de Moab. Savez-vous ce qui s'est passé? Dieu a envoyé un prophète. Garde, je veux dire bonheur. C'est tout un prophète de bonheur, là. Et Gad, de la part de Dieu, lui a ordonné de rentrer sans tarder dans le pays de Juda. Parce qu'il fallait que le futur grand roi comprenne que trouver refuge en Moab équivalait à sortir du territoire de la volonté de Dieu, et donc à fuir le programme d'éducation prévu par l'Éternel pour son serviteur en vue de son futur règne. Il y a une unité de pensée dans les Écritures. Et c'est pour cela qu'il nous faut prendre le temps d'aller de l'alpha à l'oméga des Écritures pour voir peu à peu comment tout se tient, tout se complète, le sombre est éclairé par la lumière et ainsi de suite. Mais j'aimerais simplement, en terminant cette partie, souligner qu'il est si facile de proclamer la seigneurie de Jésus-Christ dans nos credos, dans nos cantiques, tout en la contestant dans les faits de notre quotidien, dans nos choix, dans nos décisions. C'est là que nous sommes interpellés d'une manière toute particulière par ce récit. Quelles sont les conséquences de ce mauvais choix? Ruth 1, 3 à 5. Puis Élimélec, l'époux de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses deux fils. Ils épousèrent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Puis Maclan et Kilion moururent aussi tous les deux, et la femme resta privée de ses deux enfants et de son mari. Que se passe-t-il lorsque, d'une manière ou d'une autre, nous franchissons des frontières interdites, des lignes continues, rouges ou blanches, ou peu importe, pour satisfaire notre appétit en entrant dans une boulangerie moabite pour acheter du pain qui va nous coûter très cher sans nous rassasier pour autant? Et voyez-vous, j'aimerais le dire ce soir, il y a 1000 manières de partir en Moab. Et cela peut même nous arriver plusieurs fois par jour. Parce que toutes les situations ne sont pas aussi graves que celles-ci. Mais il est toujours grave d'entrer en Moab. Il y a toutes nos attitudes courantes. Et peut-être que dans cette journée, certains d'entre nous sont partis en Moab. Peut-être même qu'ils ont tellement l'habitude de partir en Moab tout en étant membre d'une église qu'ils ne se rendent même plus compte qu'ils sont en Moab en ce moment. C'est ça le drame de nos églises évangéliques à l'heure actuelle. C'est que nous ne nous rendons même plus compte quand nous sommes hors du territoire de la volonté de Dieu. Alors, disons-le, la première conséquence, c'est qu'ils ont quitté Bethléem. C'est tout simple. C'est tout simple, mais c'est important. Et Bethléem, c'était la maison du pain. Ils sont allés chercher du pain ailleurs. Il y a quand même un problème quelque part. Mais c'est surtout un problème parce qu'il y avait tout un message d'anticipation prophétique. Il y avait une annonce très forte qui nous concerne d'une manière particulière, parce que Bethléem, la maison du pain, pour nous, c'est qui? J'ai pas dit c'est quoi? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Cette mention de Bethléem dans Juges 17 à 21, cette mention de Bethléem dans Ruth 1 à 4, du mot hein, Bethléem. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a deux situations dans Juges 17 à 21 et une situation dans le livre de Ruth où des personnes quitte Bethléem et tombe dans le malheur. C'est curieux, hein? Trois récits dans lesquels chacun d'entre eux, curieusement, chacun tombe dans le malheur. Unité de pensée de Dieu dans les Écritures pour nous parler. Nous tournons le dos à Bethléem, la maison du pain, double allusion à Jésus-Christ. Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit à moi n'aura jamais soif, mais je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est mon corps pour la vie du monde. C'est Jésus qui le dit lui-même dans ce Jean 6, qui est tellement extraordinaire, versets 35 et 51. Mais bien aimé, nous allons comprendre pourquoi nous avons dit que nous pouvons être en ce moment même, tout en étant ici ce soir, en mode. Nous pouvons le dire tout simplement parce que la vie rétrograde, de recul, puisqu'il est question de revenir, c'est qu'on est parti, qu'on s'est éloigné, qu'on a reculé. La vie rétrograde commence toujours par la perte d'une relation personnelle vivante avec le Christ des Écritures. Je dis bien avec le Christ des Écritures. De la même manière qu'il y avait un autre Bethléem dans le nord du pays, en Zabulon, il y a d'autres Christ qui sont de plus en plus proclamés dans les églises évangéliques, pour ne parler que d'elles. Parce que ce sont des Christ qui arrangent nos situations, qui nous évitent de nous culpabiliser, qui nous mettent à l'aise, des Christ de notre imaginaire, des Christ de théologie complètement tordue et que sais-je encore. Et nous sommes séduits et nous nous figurons que nous connaissons encore le Christ. Non. Non. Nous avons quitté la relation avec le Christ des Écritures. La solution à nos problèmes, la vraie réponse à nos besoins doivent être celles du Seigneur Jésus. Elles doivent passer par Jésus. Que ferait Jésus à ma place? Suis-je vraiment centré sur lui jour après jour? Tout péché commis, toute parole et comportement coupable, tout mauvais choix nous éloigne d'abord de lui. Voyez-vous, le rétrograde ne se plaît plus dans la compagnie de Jésus. Il a perdu la soif d'aimer son Seigneur et Sauveur et de chercher de tout son cœur à mieux le connaître pour mieux le servir. Ses priorités sont ailleurs. Deuxième conséquence, elle est dans les textes. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Ils étaient Éphratiens. Michée 1:5, un magnifique texte prophétique sur la venue de Jésus et sa royauté future. Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. Une annonce de la venue du Seigneur Jésus. Ephrata, c'est l'ancien nom de Bethléem. Sans doute celui du groupe familial auquel appartenait Élimélec, ce qui sous-entend que peut-être Élimélec était un descendant des familles fondatrices de la ville. C'est pas rien, n'est-ce pas? En tout cas, deux noms indissociables. Et Ephrata, en hébreu, signifie fécondité, fertilité. Alors, au passage, soulignons qu'Elimelech et les siens étaient partis pour un séjour, donc avec un projet de retour chez eux. Or, il n'y a pas eu de retour pour les trois ans, mais une odeur de mort qui se répand au fil des versets 3 à 5. Trois tombes sont creusées, l'une après l'autre en terre moabite. Et cela me rappelle ce message du livre des Proverbes qui est répété à deux chapitres d'intervalle. Telle voie paraît droite devant un homme, mais à la fin, c'est la voie de la mort. Trois tombes, trois enterrements. Et en particulier une femme, pour ne parler que d'elle, Naomi, avec ce sentiment de gâchis, de vide, de solitude qui l'envahit. Plus plus d'enfants, pas de petits-enfants. Elle se sent femme stérile, sans fruits, inféconde, inutile. Et des larmes amères coulent le long de ses joues. Je suis amère. J'en ai marre. Rutin, vingtaine, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, amère. Car le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. Comblé dans l'abondance dont j'ai tardi, vive l'Éternel me ramène. Mais pourquoi m'appelez-vous Naomi? Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant m'a infligé ses malheurs. Et c'est curieux ce texte. Elle utilise un langage au niveau de Dieu qui est très particulier. C'est pas Yahvé qu'on a traduit par l'Éternel, le Dieu de l'Alliance, le Dieu de la relation, du pacte en quelque sorte dans lequel Dieu a pris tous les engagements, n'est-ce pas, d'avoir une relation avec un peuple qu'il allait chérir d'une manière particulière et aussi châtier d'une manière particulière parce qu'il était destiné à être la lumière des nations, n'est-ce pas. Une relation, vraiment une relation d'amour en profondeur, Yahvé. 18 fois vous le trouvez dans les 4 chapitres du livre de Ruth, mais pas ici. Ici, c'est le Tout-Puissant. C'est curieux. Shaddai. Et Shaddai, qui d'ailleurs figure 2 fois, le Tout-Puissant, c'est celui qui a tout pouvoir, celui qui est parfaitement suffisant, l'El Shaddai de la Genèse et de l'Exode, où il est presque toujours associé à des promesses de fécondité. Naomi souligne le paradoxe. Ce Dieu-là, mes amis, ce Dieu-là nous ramène les mains vides et le cœur sec. Et pourtant, elle jouissait d'une abondance matérielle en Moab. Plus de problèmes de famine, du pain à satiété pour le corps. Mais rien ne vaut la paix du cœur. Le sentiment profond d'approbation du Seigneur, le témoignage intérieur de sa présence vivante, une conscience paisible. Psaume 4, 8 et 9, c'est David un soir qui le dit. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'il n'en éprouve quand t'abondes leur blé et leur vin nouveau. Aussitôt couché, je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Psaume 4, 8 et 9. Et Naomi, c'est le comble. Naomi va reconnaître qu'elle était heureuse dans la famine à Bethléem. Oui, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ils sont partis là-bas et elle était heureuse dans la famine. C'est pas moi qui le dis. Comblée ou dans l'abondance, j'étais parti. Et ce n'est pas la seule fois que nous avons une telle parole dans les Écritures. Dans Osée chapitre 2, verset 9, le peuple d'Israël, et c'est Dieu qui parle par le prophète pour montrer au peuple la problématique. Le peuple d'Israël dit « Je vais revenir vers mon premier mari. » J'ai quitté mon premier mari. Et en fait, c'était normalement, spirituellement, le seul, c'était Dieu. Alors, à cette époque, ils ont quitté Dieu pour vivre une vie de prostitution courant d'un amant à l'autre, n'est-ce pas ? Je vais revenir vers mon premier mari, car alors, j'étais plus heureuse que maintenant. » Le chrétien rétrograde ne s'éloigne jamais de Bethléem sans être aussitôt privé d'Éphrata. S'éloigner de Jésus, c'est inévitablement perdre la vie de plénitude en lui. L'abondance intérieure, la fécondité spirituelle. Vous êtes remplis en lui, dit littéralement l'apôtre Paul aux Colossiens, chapitre 2, verset 10. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elle est en abondance. Il n'est pas dit que les brebis vont avoir une vie matérielle absolument extraordinaire et une vie de prospérité. Non, qu'elle ait la vie. La vie, elle est là-haut. Une vie dans le domaine spirituel en particulier. Avec toutes les retombées que cela va avoir dans le témoignage en particulier. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 35. Et puis, troisième conséquence, c'est de Bethléem de Juda qu'il s'agit. Et il y a une insistance, Bethléem de Juda. Si vous lisez la fin du livre des juges, partout c'est Bethléem de Juda, c'est toujours de Juda, c'est très clair, n'est-ce pas? Il n'y a que quand on avance dans le livre de Ruth, qu'à un moment donné, le Juda disparaît parce que c'est tellement évident qu'il n'y a plus besoin de le répéter. Et Juda veut dire louange, célébration. Et c'est vrai, dans Ruth 1,13, elle s'adresse à ses deux belles-filles. « Mon sort est plus amer que le ventre et la main de l'Éternel s'est abattue sur moi. Quand elle répond aux femmes de Bethléem, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, amère, car le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. L'amertume a chassé le charme, la grâce de Naomi. Elle est ici le résultat de l'insatisfaction spirituelle de la veuve d'Elimelech. De son fort sentiment de culpabilité, d'échec, de vie, de solitude, de stérilité, qui enserre son âme dans ses multiples tentacules. L'Éternel a été totalement ignoré lors du choix conjugal de Moab. Le châtiment divin qui la secoue profondément résulte donc aussi de sa conduite coupable. Ce n'est pas une révolte contre Dieu d'abord, c'est un douloureux constat. Et c'est ce que le prophète Jérémie dira un jour au peuple désobéissant de Jérusalem. « Voilà où t'ont amené ta conduite et tes agissements, voilà ce qui cause ton malheur. »« Oui, ajoute-t-il, c'est une source d'amertume. Cela te va droit au cœur. » Jérémie 4, 18. L'amertume gangrène le cœur et pourrit la vie. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Hébreux 12, 15. Je deviens imbuvable par mon entourage, plus encore que l'ont été les eaux de Mara dans le désert, après la traversée de la mer Rouge. Les eaux de Mara, les eaux amères, quelle déception pour le peuple. Plus de joie dans le Seigneur, plus d'esprit de louange, plus de reconnaissance, plus de célébration, plus d'adoration. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, célébrations du début du mois, ses sabbats, toutes ses fêtes solennelles, Osée 2, 13 et tant d'autres passages. Pendant au moins 10 ans, Naomi a été privée des nombreuses fêtes en l'honneur de l'Éternel, qui jalonnait, rythmait la vie de la cité de Bethléem de Juda. Et en fait, c'est toute la vie de prière, avec sa constellation d'actions de grâce, qui s'étiole au risque même de s'éteindre dans la vie du disciple rétrograde. N'est-ce pas le psalmiste qui dira au psaume 137, verset 4, « Mais comment chanterions-nous les chants de l'Éternel sur une terre étrangère ? Ce n'est pas possible. » Naomi n'a pas chanté en terre de Moab, comme elle aurait aimé chanter. La louange, la célébration agréable à Dieu, est un des fruits d'une vie centrée sur Jésus et remplie du Saint-Esprit. La louange n'est pas une mode. La louange n'est pas un système organisé avec des personnes qui en écoutent d'autres chanter, et il y aurait tant de choses à dire sur les déviations dans ce domaine, tout simplement parce que les cœurs ne sont pas remplis du Saint-Esprit, trop souvent. Éphésiens 5, 18 à 20, « Soyez remplis ou laissez-vous continuellement remplir de l'Esprit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur, rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors vous me direz, mais on va mal dormir cette nuit, c'est quand même pas très chaud tout ça. Mais il le fallait, mes amis. J'ai entendu récemment, en venant sur Orsay depuis Orléans, nous écoutons parfois le culte sur le France 2, sur le chemin, n'est-ce pas? Chaque fois, ou 99 fois sur 100, nous sommes écoulés. Moi, j'ai peur de faire un accident. Parce que tout récemment encore, le pasteur a commencé son homélie en disant « Et vous savez, la Bible ne parle jamais de culpabilité. » Mes amis, où a-t-il fait ses études? Alors, la bonne nouvelle, parce que nous allons partir sur une bonne nouvelle, peut-être dans les larmes. C'est Ruth 1, 6 à 7. Alors elle se leva, elle et ses belles filles, s'en revint de la campagne de Moab. Car elle avait appris dans la campagne de Moab que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain. Elle sortit du lieu où elle vivait, ses deux belles filles avec elle. Elles se mirent en route pour retourner ou revenir littéralement au pays de Juda. Verset 22. Ainsi revint Naomi avec sa belle-fille Ruth la Moabite qui revenait de la campagne de Moab. C'est intéressant. Quatre fois, mes amis. Dans le texte hébreu, quatre fois, très clairement, vous avez le même terme revenir. Il est partout le terme revenir dans les Écritures. C'est un petit verbe, tout court, trois lettres simplement, chou. Ça, c'est la prononciation. Il figure plus de 1000 fois dans l'Ancien Testament. C'est un des verbes les plus utilisés de l'Ancien Testament, mes amis. C'est pour ça que c'est important ce que nous voyons. Et Dieu a un message quand il nous parle, dit « revenez ». Et ce terme, effectivement, dans sa signification la plus simple, c'est « revenir ». Alors, revenir physiquement, géographiquement, mais on a oublié souvent de dire qu'il a un sens spirituel. On peut le faire quand je vais rentrer à la maison, mais ça peut vouloir dire revenir vers le Seigneur, changer de direction, se convertir. Et la conversion, c'est un changement de voie. On part dans la direction opposée. Se repentir. Ça, c'est alors un changement révolutionnaire, tant en profondeur, dans les profondeurs de notre être intérieur, n'est-ce pas ? On change complètement de mentalité, d'échelle de valeur, etc., n'est-ce pas ? Alors, il peut être, hélas, aussi utilisé pour aller dans l'autre sens, avec un sens négatif. Quand on s'écarte de Dieu, c'est le même verbe qui est utilisé, simplement avec un autre préfixe, si vous voulez, dit à la française. Et Jérémie l'utilise 114 fois, et 48 fois dans ce sens spirituel qui tourne autour de la repentance. Les caractéristiques fondamentales du réveil de Naomi mettent en lumière les véritables dimensions de notre pratique de cet impératif vital, central. Revenez à moi de tout votre cœur, à 100%, je dirais même à 200%. Parce qu'il y a une petite différence entre le cœur, dans un certain nombre de textes, dans le schéma Israël de Deutéronome 6, par exemple, il y a un mot, puis on le redouble. Il y a ce qu'on appelle une redondance. Et les rabbins, là, ils ont interprété « revenez à moi avec vos deux cœurs ». Comme si nous avions deux cœurs, n'est-ce pas ? Pour bien montrer que c'est le superlatif absolu, en quelque sorte, du retour. Alors, le vocabulaire utilisé dans ce domaine du retour est commun aux prophètes qui se sont adressés à Israël en période de déclin. On le transpose dans la Nouvelle Alliance pour nous, disciples de Jésus-Christ. Il n'y a pas de raccourci possible dans le programme biblique d'un vrai réveil. Et là, nous allons aller vite. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais nous allons retenir l'essentiel. Revenir de tout son cœur, c'est d'abord réagir. C'est se lever. Alors, elle se leva. C'est le point de départ dans la bonne direction. Un réveil a sonné quelque part, qui l'a fait sortir de son sommeil, de sa passivité, de sa résignation, de l'inertie, de son fatalisme. Elle avait appris quelque chose dans la campagne de Moab. L'Éternel était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain, verset 6. Et là, en écho, c'est un des rares passages du Nouveau Testament dont le message colle avec celui de l'Ancienne Alliance pour parler de réveil. C'est l'heure de te réveiller enfin du sommeil et de te lever. Romains 13, 11. La nuit, le soleil s'est levé. Il fait jour. À la famine a succédé la farine. Éphésiens 5, 14. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Littéralement, lève-toi hors des morts. Et le Christ resplendira sur toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Naomi, tu vas tous les jours au cimetière. Matin, midi et soir, tu es là. Tu vas pleurer au cimetière sur ces trois tombes avec les deux veuves, avec tes deux belles-filles. Tu ne peux pas continuer comme ça toute ta vie. Ta vie n'est pas faite pour la mort, elle est faite précisément pour la vie. Quitte le cimetière de Moab. Et vois-tu, parce que je t'aime, je vais te donner une bonne nouvelle. Ça c'est la carotte de l'amour de Dieu, pour faire avancer les mulets, les ânes têtus que nous sommes. J'ai visité mon peuple, j'ai donné du pain, je lui ai fait grâce. Tu ne veux pas participer à cette grâce? Est-ce que tu vas rester comme ça? Tu sais, Naomi, tu pourrais prier du matin au soir et toutes les nuits en restant à moi. Ça ne changera rien à ta vie. Ça va t'enfoncer encore davantage. Mais maintenant, si tu prends la route, si tu te lèves, tout va changer. C'est l'Éternel qui fait sonner son réveil, celui de sa grâce, de sa fidélité, de sa bonté. Celui qui châtie sévèrement ne cesse pas d'aimer pour autant. C'est le chérissement de Dieu qui l'invite au retour. C'est moi, l'Éternel. Je n'ai pas changé. Malachi, chapitre 3, verset 6. Naomi, tu as changé. Tu as changé dans le mauvais sens. Alors reviens maintenant. Dieu, voyez-vous, moi je trouve ça extraordinaire dans les Écritures. Dieu prend l'initiative. Nous ne pouvons pas un jour dire à Dieu, mais tu sais, moi j'ai fait le voyage, j'ai, à un moment donné je me suis levé, j'ai pris mon courage de main, tu devrais maintenant me mettre la Légion d'honneur et le mérite à l'école. Non, c'est toujours Dieu qui, dans son amour, prend l'initiative. Le problème, c'est qu'on ne saisit pas toujours l'initiative de Dieu. Ça, c'est notre problème. J'entends Éphraïm qui se lamente. Tu m'as corrigé et j'ai été corrigé. Fais-moi revenir et je reviendrai, car c'est toi l'Éternel, mon Dieu. Jérémie 31, 18. La fin de lamentation, l'avant-dernier verset. Fais-nous revenir vers toi et nous reviendrons. Mes bien-aimés, s'il y en a qui ce soir doivent dire cela au Seigneur, parce qu'en ce moment ils sont en train de se rendre compte que quand ils écoutent, ils ont l'impression que je suis en train de lire leur carte d'identité actuelle. Eh bien, mes bien-aimés, vous pouvez le dire ça au Seigneur, dire ça au Seigneur ce soir. Lui dire, mais Seigneur, fais-moi revenir. Je me sens tellement en bas, je suis tellement amer, j'en ai tellement marre. Mais Seigneur, fais-moi revenir. Comme ça, au moins, la gloire ne sera pas à vous. Mais Dieu entend ses prières.
Amen.
Mais pour cela, revenir de tout son cœur, c'est aussi reconnaître son état, reconnaître son péché. Lorsque Naomi et Ruth entrèrent à Bethléem, toute la ville fut étonnée à leur sujet, et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elles leur dit, « Mais oui, c'est Naomi, je viens de faire un de ces voyages, j'ai ramené des films extraordinaires, on vous inviterait pendant la semaine, un soir, vous allez voir ça, préparer de la nourriture, ce sera la fête. » Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, amère, car le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère, m'a rempli d'amertume. » Vous savez, Naomi, je l'aime à cause de ça, elle refuse le masque du bonheur apparent. Pas de faux semblants, pas d'excuses, pas de déguisements de toutes sortes. Elle avoue simplement son vide, son échec, son amertume, sa culpabilité, la désapprobation de Dieu. Elle reconnaît la plaie de son cœur. C'est la prière de Salomon pour l'inauguration du premier temple. Elle reconnaît la plaie de son cœur. 1 Roi 8, 38. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle est transparente. Elle ne fait pas du naturisme. C'est pas la même chose. Il ne s'agit pas de tout mettre à nu. On peut faire beaucoup de mal autour de soi. Mais vous remarquez sa sobriété. Mais elle ne peut pas s'empêcher de dire où elle en est. Et nous avons un gros problème. Ce sont toutes nos mascarades. Vous ne croyez pas que nous mettons facilement des masques parce que nous avons peur de ce que les autres vont penser. Il vaut mieux qu'ils pensent qu'on est des gens bien, n'est-ce pas? Bien des gens sont comme les horloges qui indiquent une heure et en sonnent une autre. C'est un proverbe arabe. Notre plus grand orgueil ennemi, c'est l'orgueil opiniâtre qui s'obstine à résister à l'action du Saint-Esprit dans notre cœur. Et là, il y aurait tant de choses à dire, mais que Dieu nous convainque de notre orgueil. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ésaïe 30:15. Mais vous ne l'avez pas voulu. Osée 7:8 à 10. Éphraïm se confond avec les peuples. Il n'y a plus de distinction à faire entre Israël et les nations. Et vous ne trouvez pas que l'Église ressemble un peu trop souvent au monde maintenant? On ne sait pas toujours faire la différence, n'est-ce pas? Éphraïm se confond avec les peuples. Éphraïm, c'est tout le royaume du Nord. 10 tribus. À un moment donné, il y a eu un schisme. La tribu la plus importante s'appelait Éphraïm, un des fils de Joseph. Et comme elle était la tribu la plus importante et qu'elle a joué un grand rôle dans l'histoire, Osée, il va utiliser ce nom pour décrire le royaume du Nord. Et il va le faire 30, 35 ou 37 fois, quelque chose comme ça, dans ce petit livre. Hein, c'est pas rien. Tout simplement parce qu'un des problèmes d'Israël, beaucoup plus tard, c'était qu'il n'était plus fécond non plus. Vous avez entendu Éphrata, Éphraïm, hein, c'est la même famille. Alors, Éphraïm se confond avec les peuples, Éphraïm est devenu, écoutez ça. Comment est-ce qu'on peut ne pas aimer la Bible? Éphraïm se confond avec les peuples, Éphraïm est devenu une galette qui n'a pas été retournée. C'est ça? Et les dames, vous savez ce que c'est, une galette qui n'est pas retournée? Je vais vous précipiter dans le four. Quelle catastrophe! Complètement noir en dessous! Et puis parce qu'il était mal réglé, c'est pas cuit au-dessus. Vous voyez tout ce qu'on peut en tirer comme conclusion pour nos vies personnelles? Et écoutez, des étrangers dévorent sa force et il ne le reconnaît pas. La vieillesse s'empare de lui. En hébreu, sa tête est parsemée de cheveux blancs et il ne le reconnaît pas. C'est comme si je vous le disais, mais vous savez, moi, j'ai des cheveux bruns. Et Dieu me dit, non, tes cheveux ne sont pas bruns. Ils ont été bruns, mais ils ont une autre couleur maintenant. Tu devrais t'en rendre compte, parce que sinon tu es malade. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'Éternel, leur Dieu, et malgré tout cela, ils ne le recherchent pas. Ça, c'est notre problème. Je me souviens, il y a bien des années, j'avais tout un programme d'enseignement en Guyane française, et nous avons eu une semaine de réunion sur ce thème avec l'église principale à Cayenne. Et soir après soir, des personnes s'avancer pour se réconcilier, être réconcilié avec Dieu, régler des problèmes par rapport à Naomi. Et elle recevait un petit papier, voyez, avec 5 cases et 5 phrases. Et elle l'avait rempli et puis elle me redonnait ensuite le document parce que ensuite nous passions par les responsables d'église pour que ces personnes puissent être suivies. Et quand on est arrivé à l'avant-dernier soir, j'avais un certain nombre de papiers de ces personnes qui étaient avancées. Elles avaient pratiquement toutes coché la case 1, la case 2, la case 4, la case 5, mais jamais la 3. Je m'engage avec sa force à réparer les torts que j'ai causés à mon prochain et à demander pardon à ceux que j'ai offensés. Je dis, mais Seigneur, nous avons tant de réunions derrière nous. Il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Savez-vous ce que Dieu m'a dit clairement? Il m'a dit, mais c'est l'orgueil. Et il m'a dit, maintenant, toi, demain soir, ton thème, c'est l'orgueil. Et la dernière soirée a été consacrée à parler de l'orgueil. Et mes amis, il n'y a jamais eu autant de personnes qui se sont avancées. On est même venu me demander une feuille pour mettre la casserole et tant d'autres choses. L'orgueil. Vous ne croyez pas que je sois dans un cercle à part de petits chouchous du Seigneur. Vous n'avez pas vu mon auréole encore. Ma femme ne l'a jamais vu. Ah, oh, mes amis. Ah, j'ai dû apprendre à demander pardon. Ah, oh, mais quelle libération. Quel changement. Quand on apprend à vivre de la grâce de Dieu. C'est Francis Schaeffer qui, dans un de ses livres, écrit « La discipline de Dieu le Père a pour but de nous amener à reconnaître que le péché bien précis est un péché. Sa main peut s'apesantir toujours plus sur nous, jusqu'à ce que nous le reconnaissions comme tel et que nous mettions fin à la recherche d'échappatoires en lui donnant des noms fantaisistes ou en rendant d'autres personnes responsables ou encore en lui cherchant une excuse quelconque. » Et ce qui me frappe, c'est que Naomi n'a jamais accusé son mari. Elle n'a pas dit « c'est la faute de mon mari, moi j'ai été fidèle, j'ai suivi mon mari, un point c'est tout ». Non, ça ne marche pas comme ça. Chacun sa part de responsabilité. Chacun. Troisièmement, revenir de tout son cœur, c'est rompre radicalement avec son péché. Naomi revient de sa mauvaise voie en rompant avec son péché qui s'appelle Moab. Il y a quatre verbes dans ces versets 6 à 7. Quatre verbes qui sont tous des verbes qui vont dans le sens de la rupture associée au retour. Je romps parce que je reviens. Et je reviens parce que je romps. Vous ne pouvez pas non plus les dissocier. Et Naomi ne s'est pas arrêtée sur la rive moabite du Jourdain en disant « Mais Seigneur, ça y est, c'est bien, je vois mon pays de l'autre côté. » Non. Elle a passé le Jourdain. Elle est remontée. Et il fallait monter, parce que ça fait haut hein, pour aller à Bethléem depuis les bords du Jourdain. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, qu'il prie et recherche ma face. S'il revient de sa mauvaise voie, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Un précepteur américain reçut un jour une lettre anonyme dont l'expéditeur lui avouait avoir fraudé dans sa déclaration de revenus. Il avait perdu le sommeil à cause du travail de sa conscience, et à la fin de sa lettre, il écrivait « S'il joint $50 ». Bravo! Sauf qu'il y avait encore une phrase. Si après cela je n'arrive toujours pas à dormir, je vous enverrai le reste. Revenir de tout son cœur en approche de la fin, c'est donc aussi revenir avec droiture au Seigneur. Au Seigneur, avec droiture au Seigneur. Joël 2, 12, 13, revenez à moi de tout votre cœur. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il fait grâce. Il est compatissant, lent à la colère, riche en bonté, etc. Et voyez-vous, dans une dizaine de passages de son livre, le prophète Osée insiste sur l'importance primordiale d'un retour sérieux, profond, authentique, entier, vers Dieu. Je dis bien vers Dieu. Et Israël est comparé par le prophète Osée à une colombe stupide, chapitre 7, verset 11, parce qu'elle est incapable de savoir, de voler vers son colombe, ou son colombier. Osée 7, 14 à 16, ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, ils ne reviennent, mais non pas en haut, ils sont comme un arc faussé. Vous ne trouvez pas que les Écritures, c'est intéressant? Pourquoi est-ce qu'on dit si peu la Bible? Vous ne trouvez pas que c'est à portée de n'importe qui? C'est pourtant dans les prophètes. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ils sont comme un arc faussé. Ils parlent et agissent volontairement comme si comme des arcs défectueux dont les flèches s'égarent loin de la cible. Dans la Nouvelle Alliance, c'est toujours à Jésus qu'il faut revenir, à notre maison du pain. C'est là que nous devons toujours d'abord revenir. Revenir à celui que j'ai quitté pour aller en moi. Vous me dites, mais moi non, moi je vais lire la Bible comme jamais. Après ce qu'on a entendu ce soir, je vais me mettre à lire la Bible et vous allez voir, ça va y aller. Il y en a d'autres qui vont dire, moi je donnerai davantage à l'offrande financière demain matin culte. D'autres, je vais évangéliser comme je n'ai jamais évangélisé jusqu'à présent. Mais allez, Dieu n'est pas un épicier. On ne marchande pas avec Dieu. Ça, c'est se remettre sous la loi. Si je fais ça, ça va marcher. Je dis non. Tu as quitté Bethléem. Reviens à Bethléem. Tu t'es éloigné de Jésus. Il n'est plus au cœur de ta vie. Il n'est plus au centre. Il n'a plus la place qui lui revient. C'est de lui que tout dépend. Si tu reviens à lui, le reste a de l'importance, tout ce que j'ai dit a de l'importance. Mais il faut le placer au bon endroit et avec la bonne mentalité. Attention à ce que nous pensons, quelles sont nos motivations. Est-ce que nous voulons faire des échanges? Mes amis, si nous voulons cela, vous entrez dans la religion des œuvres méritoires. Il faut revenir à Jésus seul car il fait grâce, alors que la loi nous condamne. Le seul aspect positif de la loi qui parle, c'est qu'elle nous oblige en quelque sorte à tourner nos regards vers Jésus. Elle nous oriente vers Jésus parce qu'elle nous met dans des situations dites désespérées. Parce qu'elle est jamais contente, la loi. Elle est parfaite. Alors, il nous pousse vers Jésus. Jésus a fait revenir le fils prodigue directement chez son père. J'ai souvent pensé, heureusement que dans ces aïeux nausés avons, le fils ne s'est pas d'abord trouvé et allé avec son frère aîné, enfoncé dans son costume sévère de légaliste implacable au cœur sec et dur qui n'avait rien compris de la merveilleuse générosité de son père. Moi, je pense qu'il y aurait peut-être eu un cadavre sur le chemin. Le vrai réveil consiste à revenir au Seigneur, à être délivré du péché tout en trouvant une nouvelle joie dans son propre foyer. Jésus est le don de Dieu à l'humanité, il n'a rien d'autre à donner. Il est lui le réveil. Dieu ne peut jamais donner quoi que ce soit de plus que ce qu'il nous offre en Christ. Jésus est le centre de tout. Patricia Saint-John, dans un livre remarquable sur le réveil dans ses 50 ans, 1930-1980, un peu plus, au Rwanda, au Burundi, à l'Ouganda, qui était dans ma vie quelque chose d'extraordinaire, mais je ne peux pas en parler ce soir. Enfin, revenir de tout cœur, je ne peux pas passer à côté, excusez-moi, c'est revenir à la croix. Et c'est revenir à la croix avec la résurrection, pas à la croix tout seul. À la croix et la résurrection. Parce que Naomi et Ruth arrivèrent à Bethléem, Ruth 1:22, au commencement de la moisson des orges. Mais rien n'est mis dans les Écritures qui sous-entendent que c'est pas intéressant. Il y a là quelque chose de fantastique. Au commencement de la moisson des orges, c'était un temps de fête qui commençait juste à ce moment-là. Les trois premiers temps forts dans la vie des habitants de Bethléem. La moisson des orges commençait pendant ce qu'on appelait à l'époque le mois des épis. Y compris en hébreu, le nom a changé, aujourd'hui Nissan par la suite, qui était aussi celui de la Pâque. La Pâque, vous vous rendez compte? L'agneau immolé, le sang répandu sur les linteaux, sur les poteaux des maisons. la grâce de Dieu qui passe par-dessus, n'est-ce pas, et qui frappe les nouveau-nés du peuple égyptien. Et c'est un Dieu qui annonce celui que le disciple Jean va appeler au début de l'évangile selon Jean, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui a pris mon péché sur la croix. Combien cela est fort. Le réveil spirituel personnel replace la croix et la résurrection de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, au centre de la vie chrétienne authentique. Mais ce qui est intéressant, c'est que juste dans la suite immédiate, le soir de la Pâque, commencer la semaine des pains sans levain. Ah, on allait fouiller, on avait des petits plats, on allait fouiller dans tous les recoins, et puis partout il y avait un petit grain de levain, il fallait qu'il n'y ait plus de levain. Et c'était une annonce que la vie, une fois qu'on accepte la grâce de Dieu par le sang de l'agneau, la vie est différente, c'est une vie qui progresse dans la sainteté. Dans la sainteté. Et tout de suite après, il y avait la fête des prémices. Et la fête des prémices, c'était la fête dans laquelle on présentait une gerbe d'orge qui était agitée de côté et d'autre au moment où on la présentait à l'Éternel. Et elle préfigurait quoi ? La résurrection de Jésus-Christ. Parce que chaque fête de l'Ancienne Alliance, dans Lévitique 23, dans Deutéronome 16, était tournée vers des préfigurations. C'est-à-dire que ça annonçait des éléments très importants de la vie chrétienne. Donc c'est quand même extraordinaire, n'est-ce pas ? Elles sont arrivées là ! Imaginez Naomi, avec sa chère belle-fille Ruth, qui arrive dans la ville, qui est dans une atmosphère de fête absolument extraordinaire. Et en quelque sorte, Dieu qui lui dit, mais tu sais Naomi, le sang de l'agneau pascal t'attend depuis plus de 10 ans. Pendant 10 ans, tu as manqué, en quelque sorte, toute la dimension de la croix, de la résurrection et de la sainteté dans ta vie. J'ai effacé tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme la brume. Reviens vers moi, car je t'ai racheté. Isaïe 44, 22. Et puis, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, nous purifier de toute injustice. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Je dois homologuer, c'est du grec. Vous voyez, c'est du grec, francisé. Je dois homologuer mes péchés. C'est ça qu'on fait, c'est. Et homologuer, ça veut dire parler comme Dieu parle. Seigneur, tu dis ça, c'est une faute. Je te dis, Seigneur, je reconnais, ça, c'est une faute. Ça, c'est un péché qui s'appelle le mensonge. Seigneur, oui, c'est du mensonge. Vous voyez ? On s'aligne directement, clairement, sur le verdict de Dieu. On n'essaye pas de dire, mais Seigneur, tu n'y comprends rien. Il y a ma copine, un tel qui a... Ta copine, tu as péché. Le réveil ne consiste pas à accomplir de grandes choses, mais à être purifié de petites choses.
Amen.
Notre part dans le réveil n'est pas d'obtenir telle expérience, tel don, tel équipement qui nous manque, car le Seigneur désire nous donner ce qu'il a de meilleur. Mais c'est de faire passer par la croix chaque aspect de nos réactions et attitudes, de nos habitudes, de nos luttes et problèmes, de nos relations avec les autres. Et j'ai là, sous mes yeux, un extrait d'une lettre d'un garçon de 8 ans, c'est en France, reçu la lettre à la présidence de la République française. Ça nous intéresse beaucoup. À sa majesté, c'est pas maintenant, hein, c'est ancien, mais en fait, à sa majesté, le président de la République. C'est vrai, hein, ça a été transmis ensuite à qui de droit. Monsieur le président, il n'y a pas très longtemps, j'ai collé 2 timbres déjà utilisés sur une enveloppe. Oh, je ne sais pas si je l'ai fait plus de 2 fois, mais je crois pas plus de 3 fois. Depuis, j'ai donné mon cœur à Jésus. Et je vous renvoie 12 timbres pour être bien sûr. Je vous demande de me pardonner, votre majesté, et je vous promets de ne plus recommencer. Voilà un enfant qui a bien commencé. Et nous devrions redevenir des enfants. en particulier dans ce domaine. Mes amis, la vie de nos églises et la vie de nos familles serait complètement transformée si nous savions simplement demander pardon. Moi, je peux vous dire, demander à ma femme, ce qui a construit notre vie conjugale depuis près de 50 ans, ça a été le pardon réciproque. Le triomphe de la grâce. Mais pas en attendant pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, en boudant chacun de son côté, où l'un étant le coq et l'autre la poule, et le coq disant « celui qui est la poule, c'est moi qui ai raison ». Ça, ce sont des bêtises de gosse. Mais c'est notre orgueil. Peut-être que dans cette journée, vous vous êtes disputé avec votre conjoint. Est-ce que vous avez demandé pardon ? Ah oui, c'est lui qui a commencé. Mais c'est pas un problème, ça. C'est son affaire avec moi. Ton affaire à toi. C'est ta responsabilité. Tu as ta part. Demande pardon. Le plus intelligent et bien-aimé, c'est celui qui demande le pardon en premier. Et voyez-vous, quand quelqu'un, de tout son cœur, humblement, sans commencer à faire le procès de l'autre, hein, parce que ça c'est connu aussi, hein. Ah, tu sais, j'ai été mauvais, je le reconnais, lui, et c'est bon, ben alors toi, si tu avais été autrement avec. Vous connaissez ça ? Oh, mes amis. Oh, est-ce que vous connaissez le dimanche matin pot de banane ? Vous connaissez pas le dimanche matin pot de banane ? Demain matin, mes amis, souvenez-vous du dimanche matin pot de banane. Ce sera plus dur parce qu'il est tard. Et puis encore, je dirais, tout le reste sera bon tout à l'heure. Le pot de banane, nous l'avons connu parce qu'avec 4 enfants, avant un culte, il y a une chaussette qui manque, le nez qui déborde, le téléphone qui sonne, parfois 2 fois. 2 enfants qui se chamaillent comme ils ne se sont jamais chamaillés, et vous pouvez allonger la liste. Alors les parents, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, peu à peu, le lait monte aussi chez eux, et ils se mettent aussi à déborder, et ils finissent par s'accuser aussi réciproquement, mais si tu avais fait attention à ces affaires, tes chaussettes, ils les auraient maintenant, hein, etc., etc. Et finalement, ils se disent les gentillesses, ils bousculent les enfants, et puis là, il y a un moment, on regarde, oh, il faut qu'on y aille, on est déjà terriblement en retard. Alors on saute dans la voiture, les enfants à l'arrière. Oh, mes amis, vous croyez au miracle ? Beaucoup de nos enfants doivent croire au miracle. Tout simplement parce que c'est curieux, il y a une métamorphose qui se met en place. C'est encore chaud au début du parcours, mais petit à petit, tout se calme, tout change. On approche du parking de l'église, et puis de l'entrée de la chapelle, et puis les enfants qui disent, oh, c'est bizarre, c'est calme, ils sont tous gentils, maman m'a fait un sourire, papa m'a regardé, il a fait comme ça. Il cherche l'auréole, il cherche les ailes, il est en bas. Et vous comprenez, il y a un problème là. Et voyez, souvent nous sommes coincés. Et en quelque sorte, nous nous obligeons à l'hypocrisie. Je suis poli là. Nous nous obligeons à l'hypocrisie parce que nous ne réglons pas nos problèmes tout de suite. Qu'est-ce qui empêche de se demander pardon tout de suite quand on est encore dans la cuisine ? Et de dire aux enfants, vous savez chérie, on a eu tort. On va aller adorer le Seigneur. Et regarde, parce que c'est comme ça que les enfants apprennent à leur tour à demander pardon. Qu'ils prennent conscience, qu'ils deviennent sensibles dans leur cœur quant à la notion du péché, de la nécessité de la grâce. Alors demain matin, mes bien-aimés, quand la pauvre banane arrivera, parce que à tous les coups il y en aura, souvenez-vous de cela. Et si jamais vraiment le lait se mettait à déborder, demandez pardon. Simplement. Et vous allez voir que chaque fois qu'on s'humilie, on prend de plus en plus conscience de sa faiblesse et du besoin de la grâce de Dieu. Et c'est ce qui va provoquer par la grâce de Dieu la vigilance. Parce qu'on n'a pas envie d'être en train de s'humilier 24 heures sur 24. Mais notre vie devient belle. La relation conjugale devient solide.
et les enfants après, par les parents, ce qu'est la grâce de Dieu.
Oh, je vais terminer parce qu'il faut que vous alliez coucher, parce que sinon c'est moi qui vais avoir des problèmes avec vous. Mais simplement, j'aimerais dire dans la conclusion que le vrai réveil consiste à revenir de tout son cœur à notre Seigneur et Sauveur. Il n'est pas à voir comme une fin en soi, mais comme un recommencement. Ce n'est pas un aboutissement. Ce n'est pas un aboutissement. Le retour, c'est un commencement. Elle revint à Bethléem au commencement d'une moisson. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Pendant toute la période qui couvre, et qui est très courte, jusqu'à Pentecôte pratiquement, qui couvre les quatre chapitres, pendant toute cette période, le retour de Naomi à Bethléem l'a fait progressivement devenir un magnifique témoin sage pour conduire Ruth jusqu'au Rédempteur. Rédempteur,
oui.
Le Goël, le Rédempteur, celui qui rachète, Bose, qui est une autre préfiguration de Jésus-Christ. 22 fois dans le texte. Et alors il y a un sommet extraordinaire. Ruth 4, 13 à 17, Bose épousa Ruth. Elle devint sa femme. Il s'unit à elle. L'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte. Elle mit tout le monde un fils. Les femmes dirent à Ruth, béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un rédempteur dont le nom sera célébré en Israël. Je pense que vos Bibles sont fermées, mais je peux le comprendre. Mais ce n'est pas comme ça le texte. Les femmes dirent à Naomi, à Naomi, à Naomi. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un rédempteur dont le nom sera célébré en Israël. Et qu'est-ce qu'il fait ce rédempteur? Il te fait revenir à la vie, l'enfant, hein. Et soutient ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Oh, dis donc, 7 fils, hein. Ruth prit l'enfant et le mit sur son sein et se fut elle qui l'éleva. Vous croyez que c'est juste ça?
Non.
Ah, mais pas sûr que non. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein et c'est elle qui l'éleva. Des voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Ruth ?» Non, un fils est né à Naomi. Elles l'appelèrent du nom d'Obed, qui veut dire serviteur. C'est lui le père d'Isaïe, père de David. Et j'aime les histoires qui finissent bien. Je veux bien qu'elles commencent mal si elles finissent bien. Aujourd'hui, les histoires modernes, quand vous lisez un livre, quand vous êtes au bout, c'est encore pire qu'au début. Mais pas avec Dieu. Pas avec Dieu, mes amis. L'aboutissement final du processus de réveil spirituel à Naomi a été extraordinaire. Dieu s'est servi, entre autres, de son ardeur à revenir vers la maison du pain pour parler au cœur de Ruth et l'amener à une conversion radicale à l'Éternel. Cela veut dire que le réveil de l'une, Naomi, a conduit à l'éveil de l'autre, Ruth. Naomi a fini par retrouver le repos du cœur, la bénédiction de Dieu, la fécondité. Ça, c'est l'évangélisation. Mes amis, mais si nous vivons tous avec le Seigneur de tout notre cœur, si nous nous pardonnons réciproquement, si nous n'avons pas des têtes de croque-mort quand nous nous occupons parce que nous voyons quelqu'un que nous haïssons et nous allons prendre la scène après avec lui, n'est-ce pas? Mes amis, mais ça change tout. Notre christianisme doit redevenir révolutionnaire par rapport à la société qui nous environne. Et il ne peut le devenir que si maintenant, aujourd'hui et maintenant, nous quittons nos amertumes et nos chemins de loi, quels qu'ils soient. En disant, Seigneur, je reviens à toi. Et tu vas me donner même la force d'aller demander pardon à Ernestine, parce que franchement, finalement, j'ai le cœur rongé intérieurement, ça ne peut plus durer. Faites-le, mes bien-aimés. Faites-le. Revenez à moi de tout votre cœur. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il fait grâce. Il est compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il regrette le malheur qu'il envoie. Oh mes bien-aimés, combien de fois ne l'ai-je pas dit ces deux, trois derniers mois ? Reviens, 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 ça c'est quelque chose que je devrais dire à la fin. Reviens, mes bien-aimés, revenez, revenez, mais revenez à lui. Et mes amis, vous aurez demain un culte absolument fantastique et déjà peut-être même une nuit nettement meilleure. Mais il faut revenir de tout votre cœur, de tout votre cœur. Et si c'est nécessaire, vous n'attendez pas demain. J'ai fait une série d'une semaine de conférences sur ce thème dans l'église anglicane évangélique de l'île de Jersey, à Saint-Hélier, une grande église comme on fait dans le milieu anglican. Mais c'était une église anglicane évangélique tout simplement parce que son pasteur avait été médecin missionnaire d'abord. Et il avait été au Rwanda. Et au Rwanda, il y a eu ce réveil extraordinaire. J'ai connu des personnalités que Dieu a utilisées pour ce réveil, des Rwandais. Et sa vie a été bouleversée. Si bien que Dieu l'a appris à son service. Lui, le médecin missionnaire. Il est venu faire son école de théologie et il est devenu pasteur, notamment de cette église. Mais un jour, il a débarqué dans l'église où j'étais responsable, en Bretagne. Et je devais sans doute parler de ce thème. Il a été bouleversé, touché. Il m'a dit, écoutez, chers frères et chers collègues, est-ce que vous viendriez à Saint-Hélier ? J'aimerais tellement que l'église entende ce message. Alors, on a arrangé quelque chose. Et en 1974, nous nous sommes retrouvés avec Hervé Copperwitz, là, qui a joué dans le, chanté dans le trio Emmanuel, ceux les plus anciens s'en souviennent, et nous étions très proches, il est parti à 53 ans près du Seigneur, c'était mon Jonathan à l'époque. Et ça a été extraordinaire. Et voyez-vous, vous allez peut-être vous plaindre de la réunion de ce soir, parce qu'elle est longue. Mais je vais vous dire une chose. La dernière réunion dans cette église, un dimanche après-midi, a duré 3 heures. Et sur ces 3 heures, il y a eu 2 heures d'enseignement. Savez-vous ce qui s'est passé à la fin de la réunion ? Les gens se sont levés. Les uns vers les autres, sous les magnifiques voûtes de cette grande église. Et ils sont allés les uns vers les autres immédiatement se demander pardon. Et ça a duré je ne sais pas combien de temps, au point que mon ami qui me traduisait, donc Hervé Copperwitz, il avait sa guitare, j'aimais beaucoup le chant et la musique, nous avons chanté ensemble pour accompagner l'œuvre de Dieu qui se faisait sous nos yeux. C'était le ciel sur la terre, mes amis. Ça, c'est ça ce qui doit se passer. Le Saint-Esprit est prêt à le faire, Dieu est prêt à le faire. Mais à nous de dire, Seigneur, je plaide coupable. Et je viens, je reviens à toi, avec tout ce que ça signifie. Mes amis, j'ai prié pour cela. Qu'il soit glorifié. Seum solit Deo gloria à Dieu seul. Soit la gloire. Mais merci Seigneur d'avoir permis à cette convention d'être à nouveau là et que nous puissions parler d'un tel sujet. Amen.
Amen. Amen.